Bon, on parle de ces événements extrêmement violents qui impliquent des armes à feu. On le disait, des dizaines qui se seraient produits dans les derniers mois à Montréal. On pense bien sûr au phénomène du gang de rue, des gangs de rue, on va parler au pluriel, et de l'accès aux armes à feu. J'en parle ce matin avec René-André Brisebois, qui est intervenant. C'est un praticien, chercheur également, à l'Institut universitaire pour les jeunes en difficulté du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. M. Brisebois, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Peut-être d'abord pour le bénéfice de tout le monde, des auditeurs ce matin, d'avoir un portrait de ces gangs de rue qui opèrent. Il y a différentes formes de crimes, plus ou moins structurés. Si vous aviez à me dire en quelques mots, là, qui sont-ils puis comment ça se déplace sur le territoire?
En fait, quand on parle des gangs de rue, il faut faire attention parce que, premièrement, moi, c'est un terme que j'aime plus ou moins là, parce qu'il y a souvent une connotation très raciale, ethnique qu'on a associée à ce terme-là. Mais dans le fin fond, là, c'est des groupes ou des cliques de personnes qui, c'est souvent des adolescents et des adultes là, qui ont une certaine identité de groupe et qui commettent différents délits, là, dont des délits violents. Donc, c'est ce qui nous préoccupe principalement. Là. Donc, essentiellement, là, c'est ce qu'on retrouve là, quand on parle du phénomène justement des gangs de rue.
À votre connaissance, est-ce qu'ils sont structurés ou c'est carrément des espèces de rassemblements là, qui vous sentent trop de leaders?
Bien, en fait, c'est ça. Ça dépend de chacun des groupes. Ouais. Là. Donc, effectivement, dans le phénomène, on constate qu'il y a des groupes qui sont beaucoup plus organisés, structurés, alors que d'autres, c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus flou, là, je veux dire, comme fonctionnement, comme structure. Donc, ça dépend vraiment des différents groupes. Là. C'est très variable d'un groupe à l'autre.
Et comment ces jeunes-là ou ces jeunes adultes-là se retrouvent ensemble? Qu'est-ce qui les fait se regrouper?
Bien, en fait, souvent, quand on parle de ce phénomène-là, on constate que c'est souvent des jeunes qui ont différentes, je veux dire, vulnérabilités ou difficultés là, sur leur sphère de vie, sur leurs différentes sphères de vie. Fait que si je donne un exemple, tu sais, par exemple, au plan individuel, donc des jeunes là, qui vivent certaines difficultés, au niveau de la famille, il peut avoir aussi certaines, je veux dire, problématiques ou difficultés au niveau scolaire, des mauvaises fréquentations, et bien sûr, habiter dans un quartier là, qui par exemple, qui a de la violence, justement, des crimes violents, de la criminalité importante. Ça, c'est des facteurs qui peuvent influencer, je dirais, les jeunes. Là, c'est des facteurs de risque importants, mais aussi des jeunes qui ont souvent des besoins fondamentaux non comblés. Là, ce que je veux dire, c'est des jeunes qui ont besoin là, de sentir en sécurité, qui veulent répondre à un besoin d'appartenance ou des fois de reconnaissance. Quand on arrive dans une situation comme ce qu'on vit actuellement, ben là, on comprend que l'enjeu de sécurité est très important. On a des jeunes qui habitent dans certains quartiers qui ont peur, qui ont peur des fois de sortir, là, justement pour être pris pour la mauvaise personne ou quoi que ce soit. Là. Donc, dans ces contextes-là, souvent les jeunes qui vont se sentir insécures vont chercher, je veux dire, réconfort ou vont chercher une protection là, auprès de ces groupes-là. Donc, souvent, ça va expliquer des fois une certaine émergence là, ou recrudescence. Là.
OK. Et cette escalade là, qui va très loin, le recours aux armes à feu, mm-hmm. Vous l'expliquez comment? Qu'est-ce qui a fait là, que des frictions, des rivalités prennent une telle ampleur là, qu'on met la main sur des armes puis qu'on est prêt à passer à l'action?
Dans ce phénomène-là, en fait, les causes de cette violence-là ou de l'escalade-là, ça peut partir là, de différents contextes. Là. Ça peut être probablement des conflits personnels là, qui ont dégénéré, là, tout simplement, là, donc entre deux individus, puis à ce moment-là, ça vient de riposte en riposte, puis là, c'est là qu'on observe cette escalade-là. Donc, ça peut être vraiment à la base d'un conflit personnel. À d'autres moments, ça peut être en lien avec une activité criminelle, par exemple, vente de drogue, puis là, essayer d'avoir un certain contrôle sur une activité criminelle, puis là, il y a des rivalités entre les groupes. Donc, ça dépend des contextes. Je ne connais pas actuellement la situation là, entre les groupes là, qui font rage là, à Montréal puis dans le nord-est de l'île, mais c'est souvent dans des contextes comme ceux-là qu'on peut observer là, des rivalités et des tensions. Puis malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, les jeunes, que ce soit des adolescents ou des jeunes hommes, qui vont décider de s'armer, de se procurer une arme à feu, c'est souvent pour se sentir protégé. Donc, leur premier but, c'est de se sentir protégé. Par contre, quand on a une arme à feu ou on a une arme, ben c'est sûr qu'on a aussi plus tendance à utiliser. Donc, ça aussi, sentiment d'insécurité plus arme à feu fait un mélange qui peut être assez problématique.
Monsieur Brisebois, là, évidemment, les citoyens, vous le dites, sont inquiets, même les jeunes qui n'osent pas trop sortir et les adultes qui sont dans ces secteurs là, qu'on qualifie de chauds. Avec votre expérience auprès de ces jeunes, votre expérience terrain, là, la police devrait intervenir de quelle façon? C'est quoi leur rôle, la job de la police dans un contexte comme celui-là?
Bien, c'est sûr que la police doit se doit de rassurer, là, je veux dire, la population, puis on entend justement les parents en deuil, les amis, c'est d'une tristesse épouvantable là, quand on constate ça. Donc, la première des choses, c'est sûr, c'est d'avoir une présence, ça c'est sûr et certain. Mais après ça, ça prend des actions, je veux dire, répressives spécifiques. Là. Souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est de la dissuasion ciblée qu'on appelle. Là. Donc, c'est vraiment d'aller voir les protagonistes là, les plus actifs, là, ceux qu'on connaît bien dans les quartiers, puis à ce moment-là, d'essayer de calmer le jeu là, pour dire, ben là, ralentissez un peu avec les armes à feu parce qu'on vous a à l'œil, puis on va être là, puis on va s'assurer d'intervenir comme il se doit. Là. Donc ça, c'est une première étape. Mais j'ai le goût de dire, la clé, c'est pas tant la répression. La répression est nécessaire, mais ça prend de l'intervention, de la réadaptation, puis aussi beaucoup de prévention. Et c'est là, je trouve souvent qu'on manque, je dirais, là, pour s'attaquer à ce phénomène-là, c'est qu'on s'y prend trop tardivement, justement, quand ça l'éclate, au lieu de travailler davantage en amont, puis sur la prévention là, auprès des jeunes.
Quand vous dites la prévention, donnez-moi un exemple de ce que vous voulez dire.
Quand on parle de prévention, c'est souvent... offrir à ces jeunes-là des opportunités intéressantes, des opportunités sociales, des activités, des programmes, quelque chose qui va les rattacher, qui va les raccrocher à la communauté, qui vont les faire sentir en sécurité, justement. Tu sais, je vous disais tantôt, les besoins de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance, c'est d'offrir justement des activités ou des alternatives à ces jeunes-là. Parce que les gangs, en fait, pour plusieurs jeunes, c'est la seule issue qu'ils voient, qu'ils perçoivent. Donc, si on est capable d'avoir des programmes ou des intervenants qui sont là à accompagner des jeunes, à leur offrir du soutien, de l'écoute, justement, quand ils vivent des moments difficiles, de leur offrir des activités, tout ce genre d'initiatives-là peuvent avoir un effet intéressant, là, justement, en termes de prévention.
Bon, j'entends les policiers qui écoutent ce matin là, qui disent « on marche sur des œufs », ce sont des secteurs où... on va se faire taxer de faire du profilage. En même temps, on a un travail à faire pour identifier des leaders, identifier des criminels potentiels. C'est pas facile faire face à ces gangs parce qu'on est comme paralysé. On veut intervenir, puis dans bien des cas, on n'ose pas.
Effectivement, ça c'est justement un des enjeux très sensibles là, quand on parle du phénomène des gangs. Là, je le disais justement un peu plus tôt. Moi, j'ai le goût de dire qu'il faut aussi réfléchir que c'est pas une question justement ethnique ou ethnoculturelle, là, souvent même si on a ces sensibilités-là en tête, c'est vraiment de penser à, j'ai goût de dire, aux conditions de vie dans lesquelles ces jeunes-là évoluent, dans lesquelles ces quartiers-là sont confrontés. On va parler des quartiers où il y a beaucoup de pauvreté, d'inégalités sociales, économiques. Ça, c'est les questions de fond auxquelles on s'adresse pas. C'est pour ça que je ramène souvent le discours de la prévention, parce que oui, faut agir en répression, il faut neutraliser, je veux dire, là, les individus les plus actifs, mais il faut aussi agir en amont, là, puis réfléchir à ces conditions.
Mais ça, vous avez raison, mais le policier va vous dire, moi, je suis pas un travailleur social, là. Moi, j'ai une job à faire de protéger le public puis d'arrêter des criminels. On va être d'accord avec vous là, sur l'idée, vaut mieux prévenir là, que d'attendre que ça explose puis que là, on déploie des policiers. Mais entre-temps, là, comme ce soir puis en fin de semaine sur le terrain, comment un patrouilleur doit agir?
Ben, en fait, je pense que surtout d'éviter, comme je veux dire, le profilage, là, c'est-à-dire d'éviter là, de cibler certains individus, ne serait-ce que sur la seule et unique base de l'ethnicité, là. C'est-à-dire que nos protagonistes les plus actifs dans ces quartiers-là chauds, bien souvent sont connus des policiers. Donc, c'est là où on se dit des actions ciblées, c'est pour ça que tantôt je parlais de dissuasion. Okay. Ciblés, là. Donc, c'est on les connaît, ces individus-là, ben c'est d'aller les voir, de leur parler, puis d'essayer d'avoir un impact là, pour qu'eux puissent influencer leurs amis, leurs pères dans ce sens-là. Là. Donc, c'est d'éviter des interpellations, là, je veux dire, injustifiées, là, parce que ça risque de mettre justement le feu aux poudres là, et d'avoir des tensions sociales plus marquées. Donc, c'est surtout pas ce qu'on veut. On veut surtout pas stigmatiser, mais on veut intervenir efficacement, donc davantage ciblé.
M. Brisebois, merci à vous. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Merci. René-André Brisebois, donc, qui est intervenant, praticien, chercheur. Face à ce phénomène de jeunes en difficulté, de jeunes dans la rue et des jeunes qui, malheureusement, deviennent criminels. Puis là, vous comprenez un peu l'engrenage qui amène à ces dérapages complets. Puis, il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire les victimes. Des gens qui sont des victimes directes, comme cette adolescente de 15 ans, puis aussi des gens qui ont peur maintenant de sortir, puis qui sont témoins dans des quartiers où tu as une espèce de prise de contrôle qui est faite par ces regroupements de jeunes qui terrorisent finalement une communauté. Un mot également pour vous dire que Québec a demandé au juge Louis Dionne d'enquêter sur ce qu'on appelle l'affaire Camara, donc qui va revoir les techniques policières, ce qui a été fait dans le dossier. Il n'y a personne qui conteste la capacité, je dirais, l'expérience, la force de caractère du juge Dionne. La question qui demeure, c'est quelles sont les zones grises. Un, puis du côté des avocats de Camara, là, on se dit, faudrait que ça soit transparent, donc sur la place publique. Hier, on a compris qu'il y aurait une partie publique, l'autre partie moins, il faut protéger les techniques d'enquête des policiers. Fait qu'il y a un premier point d'interrogation. Et le deuxième, là, c'est pas clair pour moi, je m'excuse, là, mais est-ce que le juge Dionne va regarder le travail des policiers seulement ou s'il va regarder comment le DPCP, qu'il connaît très bien parce qu'il l'a dirigé, comment le DPCP a joué ça? Tu sais, parce qu'il y a le travail des policiers d'un bord, puis il y a aussi le travail des procureurs de la Couronne, comme on dit. Alors, comment et sur quelle base on a pu accuser M. Camara et faire les recommandations sur, justement, des façons d'éviter ce type de situation? Marquez là comment ça roule sur le réseau.